au Capi Service. Messieurs, bonjour et bienvenue dans Au Capi Service. Drépanocytose, quel impact des examens prénuptiaux pour les futurs couples? C'est les sujets que nous abordons aujourd'hui avec Dr Christian Mwamba Tshibende. Il est médecin, hématologue. Dr Christian Mwamba, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de Radio Au Capi qui nous suivent dans le monde entier. S'il vous plaît, je ne suis pas hématologue, je suis drépanocytologue.
Merci, merci d'avoir corrigé le 0 85 42 11 547. C'est notre numéro de téléphone. Si vous souhaitez participer à cette émission, chers auditeurs, vous pouvez également nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Au Capi Service. Benjamin Moudoumbi et Tichik Iboula réalisent cette émission. Jeudi, Daniel Nkachama la coordonne. Paul Badianyama est à la mise en onde et Esther Mamboté assure le live sur nos plateformes numériques. Jean-Marc Matouaki est à la supervision. Je suis Jocelyne Moussa Opondé.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
La drépanocytose est l'une des maladies génétiques les plus répandues en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Cette maladie du sang qui se transmet des parents aux enfants peut entraîner des graves complications chez les personnes atteintes. Pourtant, dans de nombreux cas, la naissance d'enfants atteints des drépanocytoses pourrait être évitée grâce à une meilleure information des futurs couples, notamment à travers les examens prénuptiaux qui permettent de connaître le groupe sanguin et surtout les statuts électrophorétiques des partenaires. Ces examens peuvent aider les futurs époux à prendre des décisions éclairées avant le mariage et à prévenir certaines formes graves de la maladie. Mais dans la réalité, beaucoup des couples ne réalisent pas ces examens avant de s'engager. Alors, quel est l'intérêt des examens prénuptiaux dans la prévention de la drépanocytose et pourquoi sont-ils encore peu réalisés par les futurs couples? Docteur Christian Mwamba Tshibende, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, qu'est-ce que la drépanocytose et comment cette maladie se transmet-elle des parents aux enfants?
Voilà, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Un sujet qui est vraiment très important. La drépanocytose, communément appelée anémie SS, certains appellent anémie falciforme, c'est une anomalie sanguine qui est héréditaire. Si elle est génétique, elle est liée à la présence de l'hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine S, caractérisée par une falciformation des globules rouges. Ces globules rouges-là, ce sont les globules rouges qui sont anormales. Donc, comprenez avec moi que la drépanocytose est une maladie génétique autosomique récessive. Elle est liée à la mutation du gène bêta-globine. Alors, c'est une maladie vraiment qui est pour laquelle les futurs couples devraient tenir beaucoup plus d'attention par rapport aux futurs enfants et puis pour leur futur. Alors, si c'est l'impact des examens d'émission pour les futurs couples, c'est une très bonne chose pour les gens qui doivent se marier.
Voilà, on va y arriver, docteur Christian. Je vous prie aussi de nous suivre à partir de votre téléphone et non à partir de votre poste récepteur. Avant d'y arriver, je disais, quelle est aujourd'hui l'ampleur de la drépanocytose en RDC?
Voilà. Actuellement, en RDC, la drépanocytose est... Parlons d'abord sur le plan continental, en Asie du Sud-Est et aussi en Europe, en Afrique, chez les Noirs. En RDC, la drépanocytose constitue un problème important et prioritaire de santé publique. Donc, la situation est vraiment très touchante. La situation de la drépanocytose est très préoccupante, avec 50 à 75% des enfants, surtout la tranche d'âge de 0 à 5 ans. Ces enfants ici meurent dans cette tranche d'âge, et voire même 5% des femmes enceintes drépanocytaires meurent au cours de la grossesse, voire même pendant le travail d'accouchement. Donc, cette mortalité et la morbidité élevée sont souvent attribuées à l'insuffisance des connaissances de cette maladie à tous les niveaux, impliquant ainsi une mauvaise prise en charge dans nos communautés.
Et parlant des examens prénuptiaux, oui, docteur Christian, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'ampleur de la drépanocytose en RDC?
Voilà. Par rapport à ça, je vais d'abord rappeler à tous les auditeurs qui nous écoutent c'est quoi d'abord les examens prénuptiaux. Qui dit examen prénuptial, c'est l'ensemble des examens de laboratoire, voire même de consultation médicale. Ces examens sont réalisés afin de dépister certaines maladies et de permettre aux couples de prendre des décisions rationnelles pour leur avenir. Alors, non seulement pour leur avenir, mais aussi pour leur progéniture. Ça permet d'entrer dans les mariages en étant informé, préparé, rassuré de son état et celui de son futur conjoint. Donc, ces examens visent donc à préparer les futurs couples à gérer certaines situations où carrément soit arrêtée la relation s'il le faut. Donc, ce sont les examens qui préviennent des risques, voire même des incompatibilités et aussi des problèmes génétiques.
Et quels sont ces examens spécifiques que l'on peut passer pendant ces tests prénuptiaux?
Voilà, merci beaucoup. Pour passer à cela, j'aimerais d'abord rappeler aux auditeurs qui nous suivent, c'est quoi d'abord l'objectif de ces examens-là. L'objectif, c'est de prévenir certaines maladies contagieuses, et puis pour non seulement pour les conjoints, aussi pour la descendance. Prévenir aussi la survenue des maladies héréditaires ou congénitales handicapantes, et aussi l'objectif, c'est de prévenir aussi certaines infections sexuellement transmissibles. Alors, quelles sont ces maladies-là pour lesquelles on doit faire ces examens prénuptiaux pour en prévenir? En République démocratique du Congo, la situation de la drépanocytose est très alarmante et préoccupante même, avec 50 à 75% des enfants de 0 à 5 ans, je l'ai déjà dit. Alors, ces enfants qui meurent au cours de la grossesse pendant le travail d'accouchement, l'impact des examens prénuptiaux pour les futurs couples, un certain futur époux qui en ont la connaissance, ces gens ne s'en soucient même pas. Et conséquence, nous avons le nombre d'enfants drépanocytaires qui ne cessent de croître. Nous avons les enfants avec des immunodéficiences humaines qui ne cessent de croître. Alors, quels sont ces examens prénuptiaux là que les futurs couples peuvent faire pour dire oui à une relation pour toute la vie? Nous avons, il y a d'abord des tests. Les tests de l'hépatite B, voire aussi les tests de l'hépatite C, dont les modes de transmission sont presque similaires, dans les sang, par les transmissions sanguines, voire aussi nous avons les partages de seringues et dits contaminés, et aussi par rapport, par les rapports sexuels. Et ces rapports sexuels, si ce ne sont pas des rapports qui sont protégés, surtout pour l'hépatite B, si vous ne faites pas les tests bien avant, si l'un des deux conjoints a l'hépatite B, il risque de transmettre à l'autre. À part le test de l'hépatite B et C, on peut parler aussi du test du virus de l'immunodéficience humaine et aussi le test pour la syphilis dont les modes de transmission se fait toujours par les rapports sexuels non protégés, voire même les contacts directs avec des lésions. Il y a aussi des transmissions, même on parle de la transmission mère-enfant pendant aussi l'accouchement. En dehors de ces deux tests-là, je veux vraiment insister sur le test d'électrophorèse de l'hémoglobine. Mmh. En or. Le test d'électrophorèse de l'hémoglobine est vraiment un test très capital pour lequel les futurs couples devraient vraiment prendre compte pour faire ce test-là. Alors, ce test ici n'est rien d'autre que c'est un outil de diagnostic essentiel qui est utilisé pour identifier, soit évaluer les différents types d'hémoglobine dans les sangs et aussi l'hémoglobine anormale. Alors, vous allez comprendre avec moi que l'hémoglobine dont je parle ici, c'est une protéine qui est présente dans les globules rouges qui joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène dans notre corps humain. Alors, et lorsque les anomalies se produisent dans la structure de cette hémoglobine dont il est question, elles peuvent entraîner de diverses situations macabres, des situations bizarres pour la santé de la personne, telles que l'anémie falciforme, qu'on appelle drépanocytose, et aussi des thalassémies, et d'autres problèmes de l'hémoglobine, d'autres hémoglobinopathies. Mmh. Ils sont vraiment tellement nombreux. Alors, pourquoi maintenant, moi, je vais insister sur le test de l'hémoglobine de l'hémoglobine? Ce test va aider à ce que les nouveaux couples puissent avoir la certitude. Ce test va diagnostiquer la drépanocytose, donc, qui est une maladie génétique pour laquelle on a déjà parlé. Ce test ici va dépister l'hémoglobine anormale. Ce test ici va aussi faire à ce que les futurs conjoints puissent connaître l'état de l'hémoglobine de l'autre.
On va y revenir, docteur Christian Mwamba. Permettez-moi de prendre deux auditeurs en ligne qui ont des questions à vous poser. Jean-Junior Mubaya nous appelle depuis Mbujimayi au Kasaï oriental. Bonjour Jean-Junior.
Bonjour madame, bonjour à tous, mon père, éditeur de la radio de la paix.
Bonjour Jean Junior, quelles sont vos questions à notre invité?
Merci beaucoup. La question que nous pouvons poser à notre invité, c'est de savoir pourquoi ces examens sortent de la compatibilité, je veux dire. Ils ne permettent pas ce que les futurs couples puissent se marier. Quels sont les conseils qu'on pourra donner à ces couples et aussi les conséquences qui pourront venir au cas où le couple refuse de suivre les conseils du médecin et qui se base sur les résultats du laboratoire? Mmh.
Merci Jean-Junior Mubaya, merci d'avoir été bref, hein, vous nous appelez depuis Mbujimayi au Kasaï oriental. Nous prenons Blaise Saïdi à Toubou qui nous appelle depuis Kisangani. Bonjour Blaise Saïdi. Blaise Saïdi, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. On va tenter de rappeler Blaise Saïdi. Il est là. On va rappeler Blaise Saïdi. Docteur Christian Mwamba, vous pouvez répondre aux questions de Jean-Junior Mubaya qui nous appelait depuis Mbujimayi.
Voilà. Merci beaucoup de la question. Notre ami dit, en cas d'incompatibilité, quels sont les conseils? Oui, alors, c'est déjà incompatible. Le mot l'indique très bien. Il y a une incompatibilité. Est-ce que quand il y a une incompatibilité, il faut dire oui à ce conjoint-là, oui à cette conjointe-là? Il faut...
Mais des fois, l'amour prend les déçus, docteur Christian Mwamba. Des fois, c'est l'amour qui prend les déçus.
Non, moi je déconseille vraiment, quand on veut se marier, c'est pour la vie. S'il y a incompatibilité, les deux futurs conjoints doivent vraiment faire examen de conscience et décider. Et la décision, pour moi qui connais vraiment les conséquences, je vais interdire l'union de ces mariages-là. Parce que quand il y a incompatibilité et que vous mariez, il y aura beaucoup de conséquences dans la vie future. Il y a beaucoup de conséquences sur tous les points de la vie. En tout cas, ceux qui vivent avec les drépanocytaires, ils vont témoigner avec moi qu'il y a beaucoup de conséquences beaucoup de conséquences sur l'incompatibilité, sur les malades drépanocytaires Mais il y a ça sur les plans économiques, sur les plans psychologiques, sur les plans. En tout cas, il y a beaucoup de conséquences, madame. En tout cas, c'est un mariage à déposer. Si vous avez fait des tests et qu'il y a une incompatibilité, informez votre conjointe, discutez de la question, vous lui parlez des conséquences, si vous vous mariez. En tout cas, c'est un humain, il va comprendre ou elle va comprendre. Ça ne sert à rien de poser les choses sans que même les tests ont certifié l'incompatibilité.
Alors, docteur, vous parlez de l'électrophorèse et on parle souvent des génotypes AA, AS ou SS. Pouvez-vous expliquer simplement ce que cela signifie?
Ok, merci beaucoup. Quand on fait l'électrophorèse, les génotypes AA, donc ce sont des allèles normaux du gène de l'hémoglobine A. Donc, quand on a fait les tests et que ça certifié que c'est AA, donc là, c'est normal. Les personnes peuvent se mettre en femme. Donc, ce sont des allèles normaux du gène AA. Et vous trouverez aussi, on peut vous certifier de la présence des AS. Donc, les génotypes AS, là, c'est un allèle normal et puis l'allèle drépanocytaire S. Donc, ici, là, nous devons savoir que c'est un porteur sain de la drépanocytose. Et vous verrez que certaines personnes, il n'y a pas de symptômes ou léger, donc...
ils ne tombent pas souvent malades.
Les jeunes,
oui. Ils ont une bonne santé.
Ils se transmettent les gènes. Voilà. Les risques de transmettre les gènes S à l'enfant. Et si l'autre partenaire est AA, vous risquez d'avoir un enfant AS, donc 50%. Et les AS là, où il y a risque d'avoir un enfant SS, donc 25% AS, 50% AA, 25%. Donc, SS là, c'est le risque d'avoir un enfant SS, donc 50%. Voilà un peu ce que j'essaie de dire.
Donc le mariage entre des personnes portant les génotypes AS et SS, AS entre eux et SS ou AS et SS sont vraiment à déconseiller.
Oui, c'est à déconseiller. Surtout AS et SS, en tout cas, c'est à déconseiller. Parce que AS, là, c'est les porteurs. SS, c'est déjà vraiment un drépanocytaire. En tout cas, comment un SS et un AS peuvent se mettre ensemble. C'est vraiment un danger. C'est à déconseiller. Et pour déconseiller un mariage comme ça, on n'y va pas à la hâte comme ça. On explique la personne, on prépare sa psychologie, on échange avec la personne, on lui montre des conséquences, des biens. En tout cas, la personne va comprendre. Nous avons vraiment aider beaucoup de gens dans nos communautés par rapport à ces résultats. Ils parviennent à comprendre. Ça dépend de la façon dont la façon avec laquelle vous abordez la personne pour lui expliquer les conséquences. Malgré que l'amour a déjà pris les défis, cette ampleur-là, mais il y a toujours possibilité de convaincre la personne. Parce que c'est la vie, madame.
Drépanocytose, quel impact des examens prénuptiaux pour les futurs couples? Nous en parlons avec Dr Christian Mwamba Chibende. Et si vous voulez participer à cette émission, appelez-nous 085 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook au Capi Service. Nous avons un auditeur en ligne, Liévin Moutala Mbombo, nous appelle depuis le territoire de Loupatapata au Kasaï Central. Bonjour, Liévin Mbombo. On a perdu Liévin. Entre temps, on prend Gaston Gandou qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour, Gaston Gandou.
Maladie, hein, peut-être.
Vous êtes déjà en direct, enfin. Gaston Gandou.
Oui. Je vous écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution à l'émission et quelles sont vos questions à notre invité, Dr Christian Mwamba?
D'abord, je disais que c'est une maladie. C'est une maladie que peut-être nous ignorons tous. mais qui cause beaucoup, hein, beaucoup de décès. Là, les chefs des enfants qui sont contaminés parce qu'ils sont nés ainsi, ou soit ils ont acquis atteint cette maladie. Mais je voulais un peu que les docteurs puissent nous expliquer en des termes clairs, hein, que comment se manifeste cette maladie, les facteurs causaux, si je veux dire les facteurs causaux de cette maladie, et comment c'est fait, surtout c'est là où que je veux m'atteler. Comment se fait la prise en charge, hein, par rapport au dépistage de cette maladie, il y a aussi l'accès aux médicaments, mais aussi les centres, hein, quels sont les centres qui sont spécialisés pour cette maladie. Je voulais aussi qu'on puisse aussi insister sur l'information qu'il faut donner, hein, pour sensibiliser la population quant à cette maladie. Il faut vraiment sensibiliser la population. Des fois, nous ignorons beaucoup de choses. On pense que c'est la guerre qui est un grand fléau, c'est la guerre qui cause la mort, la famine.
Oui, merci. Mais il y a des maladies comme on a retenu vos trois questions à notre invité. On va répondre Liévin Moutala, qu'on avait perdu tout à l'heure. Liévin Moutala, bonjour. Il est à nouveau parti. On va, docteur Christian Mwamba, que répondez-vous à Gaston Gandou qui vient de poser ses trois questions sur les symptômes de la maladie, et la prise en charge et les adresses des hôpitaux spécialisés qui prennent en charge les cas des drépanocytoses.
Voilà, merci beaucoup de la question. La drépanocytose est d'abord asymptomatique dans les trois premiers mois de vie extra-utérine. Mais ça peut devenir symptomatique après, car c'est à partir de l'âge de 6 mois que l'hémoglobine fœtale est progressivement remplacée par l'hémoglobine S, ce qui devient prédominant. Alors, comment reconnaître que ça c'est une drépanocytose? Les signes varient en fonction de l'âge du patient. Donc, notre ami doit savoir qu'il y a trois grands groupes de problèmes qui dominent la vie d'un drépanocytaire. Alors, quels sont ces trois grands groupes-là? Nous avons les crises hématologiques, les crises vaso-occlusives, et puis nous avons aussi le troisième groupe, c'est la phase des infections. Ces infections-là deviennent des infections monotones, ça se répète de temps en temps. Alors, par rapport aux crises hématologiques, les drépanocytaires présentent généralement un tableau d'anémie. Cette anémie-là, c'est souvent une anémie chronique. Et c'est une anémie qui est dit souvent un raccourcissement de la durée de vie des drépanocytes, donc des globules rouges-là. Alors, ce tableau se manifeste cliniquement, vous verrez les malades se présenter avec une pâleur conjonctivale. Cette pâleur-là peut être aussi palmaire. Le malade peut avoir aussi un
docteur, si vous pouvez parler en des termes simples, hein, pour vous faire comprendre auprès de tous nos auditeurs qui sont pas forcément médecins, est-ce que vous pouvez utiliser des termes simples?
Voilà, merci beaucoup. Je pense que peut-être que j'ai affaire à un auditoire de consoignants. Je dis que le tableau clinique des crises hématologiques se manifeste par une pâleur de conjonctive, et puis on voit aussi l'icœur. L'icœur, là, c'est une coloration jaunâtre de pigments. Et après, si on parle loin, on peut aussi voir une augmentation du volume de la rate, hein, ce qu'on appelle dans nos termes une splénomégalie. Là, c'est souvent chez les jeunes enfants, mais ce volume est souvent modéré. On peut retrouver aussi une augmentation du volume du foie, ce qu'on appelle les pathos. Alors, on peut aussi voir des malades, là, peut faire aussi des crises d'hémolyse, d'hémolyse de vie, des crises, en tout cas, un malade, chaque fois, lui, on le transfère toujours, chaque fois, il fait toujours des anémies. Là, c'est déjà un terrain un terrain sur lequel il faut tirer beaucoup plus d'attention. Alors, la deuxième phase là, les crises vaso-occlusives, ce sont communément appelées les crises douloureuses. Vous verrez les malades se présenter avec des douleurs vives là. Et ces crises sont fréquentes chez les drépanocytaires, mais elles sont restées variables dans leur durée. Vous trouverez l'intensité, leur localisation et la périodicité entre les crises. Elles peuvent être des localisations stéo-articulaires, elles peuvent être localisées au niveau des viscères, elles peuvent être déclenchées par certains facteurs qui peuvent entraîner le manque d'oxygène, l'augmentation de la température, voire même la déshydratation. Donc, les crises vaso-occlusives, là, peuvent être aussi déclenchées par l'humidité ou les refroidissements des malades. Et puis, les changements brutaux du climat, voire même la prise des excitants, l'alcool, les tabacs, les drogues, les stress, voire même la fatigue. Donc, vous comprendrez que les crises vaso-occlusives, là, ne sont rien d'autre que ce sont la phase pendant laquelle le malade a des fortes douleurs, des douleurs vives. Mmh. Et ces douleurs-là ont des localisations ostéo-articulaires. J'avais parlé des trois phases. L'autre phase, la phase des infections à répétition, là, madame, vous verrez, un drépanocytaire, lui, il fait toujours des infections à répétition. Mmh. Toujours des infections. Alors, cette phase des infections, ces infections-là sont en fait la première cause de la mortalité et la morbidité chez les drépanocytaires. Surtout les enfants de la tranche d'âge inférieure à 5 ans. Et en tout cas, ils meurent toujours des suites des infections à répétition. Mmh. Donc ici, là, les principaux facteurs qui expliquent la grande sensibilité des drépanocytaires aux infections, on peut parler peut-être des déficits d'oxygénisation, la perturbation de la voix, en termes du complément, vous verrez peut-être aussi l'asthénie fonctionnelle. Donc la race ne parvient pas vraiment à fonctionner normalement, à assurer ses fonctions normalement chez un drépanocytaire. Voilà pourquoi le drépanocytaire fait souvent des crises, il fait souvent la phase des crises infectieuses. Alors, je ne sais pas, l'autre question c'était des prises en charge.
Oui, oui, comment se fait la prise en charge de cette maladie ou des malades?
Alors, là, je veux vraiment parler des choses sur lesquelles ceux qui nous écoutent doivent vraiment en tirer profit. La prise en charge de la drépanocytaire ou de la drépanocytose est d'abord, se fait d'abord au niveau communautaire. Au niveau communautaire, comment? Elle consiste d'abord à informer la communauté sur l'existence de cette maladie. Vous verrez, cette maladie, il y a même dans certaines structures sanitaires, c'est une maladie méconnaissable, inconnue même par certains cliniciens. Ils ne savent pas qu'il y a une pathologie qui existe au nom de drépanocytose. Donc, la prise en charge consiste d'abord au niveau communautaire, nous informer d'abord sur l'existence de la maladie, et éduquer d'abord, accompagner les familles concernées par cette maladie. Donc, cette démarche-là va consister à un volet important dans la prise en charge. Donc, elle vise à faire connaître la drépanocytose. Et puis, elles disent aussi à faire participer les drépanocytaires et les parents à la prise en charge de la maladie. Elles disent aussi à assurer la communication pour l'adoption des pratiques comportementales favorables à la santé du drépanocytose. Donc, vous verrez que le drépanocytaire va se sentir vraiment impliqué. La prise en charge communautaire dit aussi à accompagner la communauté à ne pas déconsidérer les drépanocytaires. Mmh. Parce que vous verrez, dans certains coins du pays, j'ai été l'année passée dans la province de la Tchopo, vous trouverez dans l'un des villages, les drépanocytaires sont considérés comme comme une maladie, comme un sort jeté.
Ils sont stigmatisés.
Comme une maladie mystique et tout ça. Mm. Voilà les termes, ils sont stigmatisés. Donc au niveau communautaire, la prise en charge consiste aussi à orienter ces capacités-là vers les établissements des soins pour la prise en charge. Alors, si je vais être un peu large, qu'est-ce qu'on va informer? Il faut donner l'information générale sur la drépanocytose à tous les membres de la communauté pour éviter toute forme de discrimination ainsi que des fausses croyances. Mmh. Donc, voilà un peu. Alors,
on va revenir sur les centres spécialisés qui prennent en charge les drépanocytaires. Mais prenons d'abord praticien Landry Louku qui nous appelle depuis Kinshasa et qui a certainement des questions à poser à notre invité. Bonjour praticien.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à l'invité.
Quelles sont vos préoccupations, quelles sont vos questions et quelle est votre contribution à cette émission si vous en avez
une? Ma première contribution, madame, c'est d'abord vous féliciter parce que c'est une thématique très importante du fait que la plupart des personnes qui sont des prétendantes ne veulent pas toujours faire les examens préinitiaux. Alors, les avances qu'ils donnent ou les raisons qu'ils donnent, c'est du fait que vous pouvez trouver les diagnostics qui est fait par certains médecins ou certains centres spécialisés dans les examens préinitiaux. Il y a toujours une attente. Donc, les examens peuvent sortir avec une léthargie, soit les autres, les résultats ne sont pas nécessairement fournis. Mmh. Alors, ma question, nécessairement, va tout droit sur la nécessité de ces examens préinitiaux, du fait même que, déjà, lorsque des personnes se sont déjà engagées, se sont déjà donné l'amour, l'amour peut les affoler, mmh. et ils ne peuvent pas tenir compte des résultats qui sont donné par le médecin qui a dit à prélever les examens préinitiaux. Mmh. À cela, que doit faire la personne ou le conjoint du fait même que les résultats sont sortis et qu'on déclare qu'ils ne peuvent pas partir en couple parce qu'il y a un déficit dans des membres du couple. Mmh. Par exemple, on peut trouver quelqu'un qui est VIH. Il y a les VIH. Alors, à ce cas-là, le médecin peut orienter comment les prétendants pour qu'ils ne puissent pas nécessairement être affolés de l'amour et qu'ils puissent se séparer. Parce que la séparation, là, poserait surtout problème. C'est ça la question que je voudrais poser à l'invité. Mmh.
Merci beaucoup, Patricien Landry Lououkou. Merci de nous avoir appelé depuis Kinshasa. Il y a Victor Kuna qui est à Kananga, dans le Kasaï central, et qui souhaite aussi poser ses questions à notre invité. Bonjour, Victor.
Bonjour, madame. Bonjour, madame Kapli.
Mmh. Allez-y avec vos questions et votre contribution.
Merci beaucoup de la thématique. C'est très important, surtout pour les jeunes qui vont s'engager en couple. Personnellement, je suis un jeune médecin. Ce sont des cas qui viennent beaucoup plus à l'hôpital. On a connu des cas d'un couple, un nouveau couple qui était jusque-là à leur premier fils. Leur enfant était esthète. La seule chose que l'on pouvait dire au couple, c'était de se séparer. Mais au début, comme l'amour avait déjà pris le dessus, le couple a persisté à être ensemble. Mais avec le temps, vu que chaque fois qu'ils étaient à l'hôpital, finalement, ils ont fini par comprendre et chacun faisait déjà sa vie dans son coin. Et le cas du deuxième couple, c'était un couple de témoins de Jéhovah qui était déjà à 3 enfants. L'aîné était âgé d'environ 9 ans, le deuxième était âgé d'environ 6 ans et l'autre était un nourrisson de 2 à 3 ans. Mais parmi ces 3 enfants, il y en avait 3 qui étaient SS. Et je ne sais pas ces couples qui est déjà à 3 enfants. Dont 2 sont adrépanocytaires et 1 est normal. Quel conseil notre invité peut donner à ce couple-là? Se séparer ou rester là pour, surtout pour laisser l'enfant qui est normal ou rester pour prendre en charge les autres enfants qui sont pas des pensionnaires, parce qu'on sait que la plupart des enfants des pensionnaires finissent toujours par décéder, malheureusement. Alors, je ne sais pas quel conseil notre invité peut donner à ces couples-là qui persistent toujours vu qu'ils ont un enfant normal au milieu de tant d'autres qui sont à des pensionnaires. Merci.
Merci Victor Kuna pour votre intervention. On va prendre Dieu merci qui nous appelle de Kisangani. Bonjour.
Bonjour, madame.
Dieu merci, votre contribution et vos préoccupations à notre invité.
Ah oui, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. En fait, j'ai suivi l'invité avec beaucoup d'attention. Moi, je voudrais qu'il nous fasse la différence entre l'examen des rétrophoreuses et les examens de groupe sanguin. Mmh. Parce que pour les rétrophoreuses, comme il a dit tantôt, on recherche l'hémoglobine de l'acide aminé. Parce que c'est ça ce qui est à la base de l'anémie SS. Ce petit changement biochimique de l'hémoglobine de l'acide aminé, c'est ce qui occasionne la survenue de la pathologie anémie SS. Et je voulais savoir, est-ce qu'ils ont prévu aussi les mécanismes de sensibilisation? Parce que je suis un collaborateur d'un homme dédié. Comme chez nous à l'église, je pense que le processus de mariage déclenche au niveau de l'église. Avant qu'on arrive même à l'étape de fréquentation pour qu'on puisse évoluer jusqu'au niveau de mariage, on demande ces examens. Et curieusement, quand vous arrivez à la commune, le bourgmestre célèbre le mariage, ne demande rien, ne demande aucun examen. Et il ne demande pas au couple s'ils ont fait l'examen, les examens prénuptiaux pour prévenir notamment ces problèmes. Mmh. Et je pense que si on parle, il faudrait préciser le cas entre le cas de VIH suicida avec l'anémie SS. VIH suicida, on pouvait faire les examens, mais les personnes s'acceptent pour éviter la discrimination. Mais la pathologie de l'anémie SS, c'est la détermination, la vie de l'enfant. On peut, les cas de VIH suicida, on peut accompagner la grossesse et protéger l'enfant. Il sort sain. Mais pour le cas de l'anémie SS, l'enfant automatiquement est victime. C'est comme ça qu'il faudrait marteler sur ça, qu'on puisse beaucoup plus que penser sur l'aspect de la prévention. Parce que nous qui sommes des pro-santé ou des professionnels de santé, nous voyons des gens qui nous arrivent. Je vous dis, ce sont des douleurs énormes quand vous voyez quelqu'un anémique. Comment l'enfant en train de se tordre de douleur, vous mettez à sa place, vous allez beaucoup regretter, madame. Mmh. Donc, on devrait plus que parler de la prévention.
Merci.
Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous.
Merci beaucoup, Dieu merci, depuis Kisangani. Dans le loi là-bas, on prend l'appel de Jeannot Louemboué. Bonjour.
Bonjour, monsieur, je vous salue.
Bonjour.
Salut les invités et les auditeurs. Aujourd'hui, merci du choix fait sur le thème.
Merci.
Je finirai certainement par une question, mais laisse-moi d'abord faire part de la réalité de la vie. Elle est telle que vous allez voir que la majorité des couples, vous êtes peut-être mariés, je le suppose, beaucoup de gens ne se marient pas au premier choix. C'est-à-dire quoi? Vous vous mettez ensemble avec la première personne, ça ne tient pas, le comportement ne tient pas. La deuxième personne, ça ne tient pas non plus. Vous allez voir que la majorité des gens qui sont mariés ne sont pas mariés au premier choix. Peut-être c'est au cinquième choix, parce que vous êtes sans ignorer que trouver la bonne personne pour se marier n'est pas chose facile. Ça, tous ceux qui sont mariés seront d'accord avec moi. C'est une réalité de la vie. Ce qui fait que je ne suis pas en train de parler au nom de ceux qui sont mariés hein, avec ces dangers-là. Ce qui fait que beaucoup de gens trouvent du mal, trouvent mal se séparer après avoir soi-disant trouvé la bonne personne. Parce que trouver la bonne personne pour se marier pour la vie n'est pas une chose facile. Il y en a qui prient, qui vont dans des montagnes, à des montagnes pour prier afin de trouver la bonne personne. Après avoir été plusieurs fois déçu, si pas déçu, incompatibilité de comportement. Ça, on est d'accord. Voilà que quelqu'un trouve sa personne avec qui ça va, spirituellement, mentalement, et d'une manière comportementale, ça va aussi. Et boum, la médecine ne veut pas de cette relation. Parce que les enfants risqueraient d'en payer les prix fort. Hein? D'où ma question. Y a-t-il pas moyen... Bon, avec la technologie, le monde évolue, madame. Avec le monde de la technologie, il y a... l'impossible qui est devenu possible aujourd'hui. Du côté médecine, n'y a-t-il pas aussi une avancée dans ce sens-là, à pouvoir rendre compatibles les incompatibles avec la technologie, la magie de la science? C'est une question que je pose comme ça. Peut-être que, vous voyez, on est au Congo, hein, on n'est pas toujours avancé comme les autres. Si les autres, là, parlant de recherches faites, par exemple, par le médecin qui est aujourd'hui notre invité, n'y a-t-il pas des recherches faites dans ce sens-là pour rendre compatibles ceux qui autrefois étaient incompatibles. Voilà ma petite question.
Merci beaucoup, Jeannot Louemboué, depuis le Lualaba. Merci pour votre contribution et merci pour vos questions à notre invité, Dr. Christian Mwamba. Nous allons répondre à Patricien, Victoire, Dieu merci, et Jeannot Louemboué. Plusieurs questions. D'abord, commençons par cette confusion qu'il y a entre l'examen du groupe sanguin, détermination du groupe sanguin, et l'électrophorèse. Vous allez peut-être ramasser toutes les questions. Ça dépendra de comment vous voulez gérer ça. Comment peut-on encadrer psychologiquement les futurs couples qui sont aveuglés par l'amour et ne veulent pas se séparer malgré leur incompatibilité sur le plan de la santé? Quel conseil aux couples déjà mariés mais qui font des enfants drépanocytaires? Et est-ce que vous prévoyez des mécanismes de sensibilisation? Parce que l'État civil marie des couples sans exiger les résultats de ces examens prénuptiaux, alors que certaines églises le font déjà. Est-ce que les examens prénuptiaux doivent être obligatoires? Et est-ce que la science n'a pas encore trouvé une solution pour ceux qui sont incompatibles sur le plan de la santé, mais très compatibles sur le plan comportemental? Docteur Christian Mwamba.
Voilà. Merci, madame. La question de savoir par rapport à la différenciation de l'électrophorèse et le groupe sanguin. Je l'ai bien dit, l'électrophorèse, ce n'est qu'un outil de diagnostic essentiel pour identifier les différents types d'hémoglobine dans le sang. L'électrophorèse-là, on le fait pour diagnostiquer les maladies telles que la drépanocytose et puis les autres maladies génétiques, hein, par exemple les thalassémies. Donc, l'électrophorèse, ça a beaucoup vraiment de bienfaits. Les tests d'électrophorèse, ça diagnostique aussi certaines autres maladies héréditaires caractérisées par la production anormale de l'hémoglobine. Alors, à la différence, les groupes sanguins ABO, c'est une combinaison de trois lettres qu'on utilise pour définir les trois groupes sanguins initialement décrits dans le système A, B et O, auxquels s'en est ensuite ajouté les groupes AB. Donc, les situations dans lesquelles il est important de connaître les groupes sanguins, c'est de savoir si vous avez des anticorps, si c'est possible d'interagir avec une éventuelle transfusion, par exemple. Alors, connaître son groupe sanguin, c'est vraiment important, car ça va déterminer le type de sang que l'on peut transfuser pour ceux qui acceptent de la transfusion. Alors, je dis pour, par exemple, actuellement, là, tous les groupes sanguins, que ce soit A, que ce soit B, AB, O, en tout cas, peuvent se marier entre eux, car il n'existe aucune restriction médicale ou génétique interdisant l'union basée sur les groupes sanguins. Donc, la seule vigilance concerne l'incompatibilité. Moi, je mets l'accent sur l'incompatibilité. Alors, quelque chose qui est déjà incompatible, comment, même si la technologie a avancé, ça se dit patata, donc, ce qui est incompatible, ça, c'est le corps humain. Rendre ça compatible, bon, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui a les dernières mises à jour pour
pour mes conditions. Docteur, on parle de l'opération de la rate, par exemple. Est-ce qu'il y a des solutions palliatives comme ça?
Voilà. L'ablation de la moelle, oui. Effectivement, il y a dans des cas aussi où on peut recourir à l'ablation de la moelle, on change la moelle. Mais, en tout cas, moi, je ne conseille pas du tout ça. Je ne conseille pas du tout ça.
Pourquoi? Parce que c'est très onéreux, parce que c'est douloureux. Pourquoi vous ne conseillez pas ça?
Oui, si vraiment on a fait ça, ce malade-là, il sera vraiment... Il va vraiment suivre les conseils qui lui seront donnés. C'est vraiment douloureux et puis c'est coûteux et puis c'est... En tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui font à ce que moi, j'ai... je ne sois pas tout à fait d'accord. Mais c'est possible. C'est possible, mais c'est un peu coûteux. Ça va nécessiter que ces malades-là puissent passer de temps en temps au check-in. Ça va nécessiter que ces malades-là puissent vraiment être surveillés, vraiment. Tu vois un peu. Et si ces malades-là n'ont pas de moyens, la suite vraiment sera un peu bizarre. L'ami qui dit le conseil aux couples, les couples qui sont déjà mariés, mais drépanocytaires, ils ont déjà peut-être deux ou trois enfants, tout ça. Et un couple pareil, on va justement donner certains conseils. Quels sont ces conseils-là? Ils doivent vraiment être en contact avec des consultés de temps en temps, donc c'est les drépanocytaires, on sort, après, même s'il n'est pas malade, il doit consulter pour être check-in, il doit être suivi par un hématologue, par un généticien pour évaluer les risques, discuter des options, des surveillances par rapport au traitement, et puis prévenir les complications. En tout cas, le suivi médical doit être vraiment rapproché.
Mais est-ce que ce couple-là doit se séparer ou carrément ne plus avoir d'enfants?
Bon, les couples, là vous allez bien comprendre ma réponse. Je ne dis pas les couples doivent se séparer ou pas, mais on doit leur donner des conseils pour peut-être limiter les naissances, soit qu'ils ont déjà nos enfants. On peut leur produire des conseils, faire vraiment le counseling par rapport aux futurs enfants. Ils doivent limiter, puis ils ne doivent pas se séparer. Ils doivent juste consulter régulièrement. Par rapport à la durée de vie de leurs enfants, il y a beaucoup de facteurs pour lesquels ils doivent consulter l'hôpital et non se séparer. On doit juste leur donner des conseils, délimiter un peu les naissances, leur donner les conseils pour par rapport à la protection de leurs enfants et eux-mêmes. On doit pas leur dire de se séparer parce qu'ils sont déjà mariés. On doit seulement leur produire des conseils de les plus mettre au monde.
Et est-ce que... Oui, allez-y, docteur.
Oui, et aussi, par rapport à certaines structures spécialisées pour la prise en charge. À ce que je sache, en République démocratique du Congo, la prise en charge de la drépanocytose n'est pas assez compliquée. En tout cas, tout médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, qu'il soit généraliste, il est vraiment capable de prendre, de suivre correctement un drépanocytaire. Mais il y a des cliniques où des spécialistes passent pour ces cas-là de drépanocytose. Notamment à Kinshasa, à la clinique Nganiema, les drépanocytaires sont pris en charge correctement. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, clinique universitaire de Mbujimayi, clinique à Kananga aussi, l'hôpital provincial général de référence. Les médecins qui y sont, ils prennent en charge correctement les drépanocytaires. La clinique Moussebank, il y a en tout cas les cliniques sont là où il y a des personnes qui sont suffisamment formées par rapport au protocole de du national de prise en charge. Les cliniques ne sont pas assurées, sauf que c'est la pathologie qui est censée être ignorée, oubliée par certains de nos compatriotes.
Merci docteur, on va revenir sur les mécanismes de sensibilisation et l'obligation des examens prénuptiaux, mais prenons d'abord le coup de fil de Jean-Paul Moulango qui nous appelle depuis le territoire de Lui-Lou, précisément à Louputa. Bonjour Jean-Paul Moulango.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi qui nous suivent en ce moment.
Votre contribution et vos questions à notre invité.
Ça va, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. En fait, il y a un principe plus simple qui dit la santé n'a pas de prix, mais il a seulement des coûts liés, bien sûr, à son fonctionnement. Les examens prénuptiaux, comme le prédécesseur venait de le dire, et ce sont des examens qui doivent nous permettre de vérifier l'état de santé de nos futurs. Donc, ce sont des examens qui interviennent dans la prévention. Parce que, vous savez, nous sommes en train de suivre, bien sûr, ou vouloir le développement intégral de la population. Mais il ne faut pas que les problèmes qui pouvaient être évités demain et nous permettre de bien nous développer, soit une entrave, un obstacle majeur au développement. C'est comme ça que ces examens sont tellement importants, dans le sens où ils nous préviennent la transmission de certaines maladies, telles que les VIH-SIDA, l'hépatite B ou l'hépatite C. Cet examen, bien sûr, nous aide ou aide les couples à prendre des précautions pour protéger les partenaires. Parce que, après tout, je dois connaître la personne avec laquelle je dois m'engager dans une vie. Moi, j'ai une vie commune, probablement la dernière vie qu'on doit mener. Donc, c'est pourquoi il faut toujours prendre ces précautions-là. Mmh. Effectivement, ces examens aussi doivent nous éviter certaines maladies héréditaires. Parce qu'il y en a aussi de ces maladies qui ont déjà un bastion dans certaines familles. Et donc, c'est un mode de vie dans cette famille-là. Moi, je ne peux pas vouloir entrer dans cette famille aussi longtemps. Je suis en train de viser un développement. J'ai aussi des objectifs très clairs. C'est pourquoi ces tests peuvent détecter des maladies génétiques comme la drépanocytose. Et cela permet de prendre les risques pour les futurs enfants. Nous, ça peut évoluer, mais est-ce que les enfants que nous allons donner sont des enfants qui vont vivre dans de bonnes conditions? Favoriser également une bonne santé reproductive, parce que ces examens nous permettent de vérifier la fertilité et détecter des infections ou problèmes pouvant affecter la grossesse. Il y a aussi de certaines femmes, je peux dire d'une manière vulgaire, comme nous apprenons, qui ont des problèmes de béance de col. Et donc, c'est une femme qui doit avoir des problèmes dans la conception de la grossesse. Et alors,
posez votre question, Jean-Paul Moulango, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. On doit permettre à l'invité de répondre.
Ça va, en tout cas, merci beaucoup. Sinon, ma question majeure était comment est-ce que si réellement ces examens révélaient que les couples ne sont pas compatibles, alors que les premiers pas sont déjà effectués. Est-ce que il y a notre invité peut nous donner d'autres mesures de prévention, parce que nous nous sommes déjà mis d'accord, ce sont des examens qui sont venus tout juste nous barrer. Y a-t-il pas d'autres mesures aussi possibles, même si d'emblée nous connaissons que c'est difficile?
Merci beaucoup Jean-Paul Moulango pour votre question et aussi pour votre contribution à cette émission. Docteur Christian Mwamba, c'est la même question qui revient, incompatibilité, que faire? Mais est-ce que dans le cadre de la sensibilisation, est-ce que ces examens-là ne doivent pas être suggérés, hein, en tout cas un peu plus tôt? Est-ce que les parents, en élevant leurs enfants, ne doivent pas déjà faire ces examens et leur dire, hein, leur communiquer leur état pour éviter que cela ne se fasse que la veille d'un mariage et causer des dégâts sur le plan sentimental? Docteur, rapidement, on va conclure avec cette question.
Voilà. Moi, je serai bref avec celui qui a posé la question. Non, quand on dit la drépanocytose, vous avez fait les examens prénuptiaux et que ça a révélé une incompatibilité. Moi, je vais conseiller, bon, parce qu'il y a par moments, certains doutaient en faisant des résultats, vous doutez intérieurement de la certitude de ces résultats-là. Qu'est-ce qu'on fait? On conseille et puis on les oriente encore vers une autre formation sanitaire pour les mêmes résultats. Et s'il y a encore des doutes, on les oriente encore dans une autre formation sanitaire pour les mêmes résultats. Et si les résultats sont les mêmes, et qu'il y a toujours une incompatibilité. En tout cas, je ne parle pas sur le dos de la cuillère, madame. C'est un mariage à déconseiller. Et pour déconseiller une telle union, on procède par des accompagnements psychologiques.
Merci, docteur. Merci d'avoir participé à cette émission. Nous sommes malheureusement à la fin et c'est l'heure des informations. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à cette émission. Vous avez été nombreux à appeler et à poser vos questions à notre invité. On se retrouve tout de suite après le bulletin d'information.